Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Les principaux titres de l'actualité de ce samedi 4 juillet 2020. La France a un nouveau Premier ministre, il s'appelle Jean Castex et on y reviendra amplement au cours de ce journal. Le Canada, lui, suspend son traité d'extradition avec Hong Kong, plus que jamais sous la coupe de la Chine. Et puis en Australie, c'est jour d'élection dans la circonscription d'Eden Monaro, une élection partielle qui pourra servir de baromètre à Scott Morrison sur sa gestion de la crise du coronavirus. Et on ouvre donc ce journal en se tournant vers la France qui, depuis hier, a un nouveau Premier ministre. Il s'appelle Jean Castex et remplace donc Édouard Philippe qui va redevenir le maire du Havre. Julien Chavanne du service politique de Radio France Internationale était présent hier à Matignon pour assister à la passation de pouvoir.
Je suis très heureux de vous accueillir dans cet hôtel de Matignon et de vous passer le flambeau.
La fin de 3 années intenses pour Édouard Philippe, l'ex-premier ministre, rend les clés de Matignon après 1145 jours à la tête du gouvernement.
Notre pays qui a traversé cette crise sanitaire, qui a traversé d'autres crises, a besoin d'un esprit ouvert et d'une main ferme. Et je pense que vous avez cet esprit ouvert et cette main ferme. Alors je suis un peu ému en vous disant cela. Soyez bon. Et comme on dit chez moi, bon vent.
Ému, Édouard Philippe est longuement ovationné par ses équipes avant que Jean Castex ne lui rende à son tour hommage.
Les 3 années que vous avez passées ici, à Matignon, resteront sans nul doute marquées dans l'histoire de notre pays.
La réalité rattrape vite le nouvel hôte de Matignon, le Premier ministre. Jean Castex ne s'attend pas à un état de grâce.
La crise sanitaire n'est malheureusement pas terminée. La crise économique et sociale, elle est déjà là.
Édouard Philippe a déjà la tête ailleurs, au Havre, où il reprendra son fauteuil de maire dimanche. Il quitte la cour de Matignon à pied, sans se retourner.
Alors Jean Castex, lui, est un haut fonctionnaire. Il est également maire de la petite ville de Prades, dans le Gers. Et puis, il avait surtout été choisi par Emmanuel Macron pour être son monsieur déconfinement. Il a accordé hier soir sa première interview au journal de TF1 et il le promet, il est là d'abord et avant tout pour obtenir des résultats.
Je ne suis pas ici pour chercher la lumière, je suis ici pour chercher des résultats. Ça veut dire d'abord faire face à la crise, comme nous l'avons fait pour la crise sanitaire, faire face à la crise économique qui s'annonce, qui est déjà là. Mais je crois surtout au-delà, tirer les conséquences de cette crise avec toutes les faiblesses structurelles qu'elle a pointées pour essayer, c'est l'ambition. Et en cela, il y a continuité d'en sortir plus fort et plus solidaire. La seule chose ce soir qui m'intéresse, c'est de travailler le mieux possible pour mon pays et pour mes concitoyens. C'est ce que je fais depuis des années. Je suis un homme politique local, je suis un homme politique de la vie quotidienne des gens. Et cela me rend très fier.
Et puis Jean Castex, c'est aussi un homme de droite qui remplace un autre homme de droite à la tête du gouvernement. Un choix qui peut paraître étonnant alors que le parti présidentiel a enregistré de très mauvais résultats lors des élections municipales et qu'à l'inverse, on a assisté à une véritable percée de la gauche et surtout des écologistes. Alors pourquoi Emmanuel Macron a-t-il fait un tel choix? Je vous propose d'écouter l'analyse de Valérie Gasse pour RFI.
Emmanuel Macron est allé contre la tendance, la popularité d'Édouard Philippe, sa solidité dans la crise, sa loyauté sans faille, en faisait de l'avis général le meilleur candidat à sa succession. Mais l'avis général n'est pas celui d'Emmanuel Macron qui a préféré placer à Matignon un homme moins flamboyant mais très compétent, un homme issu lui aussi de la droite mais d'une droite sociale dont le directeur de cabinet sera à la demande d'Emmanuel Macron, Nicolas Revel, conseiller social de François Hollande, explique-t-on Macron à l'Élysée pour montrer que le choix n'est pas monocolore, tout en préservant ce socle de centre-droit qui est au cœur de l'électorat du président. Car c'est bien de préparer la présidentielle qu'il s'agit, en permettant à Emmanuel Macron de reprendre toute la place dans la direction et l'incarnation de l'action. C'est pour ça qu'il a choisi de changer de Premier ministre. Alors pour ne pas perdre totalement le capital politique représenté désormais par la personne d'Édouard Philippe, Emmanuel Macron lui a réservé une sortie avec les honneurs et lui a offert une mission, travailler à l'organisation de la majorité pour le garder dans sa sphère et l'aider à préparer la campagne présidentielle.
Au Canada, le gouvernement a annoncé hier qu'il suspendait son traité d'extradition avec Hong Kong, mais aussi toutes ses exportations de matériel militaire sensible. Une décision qui intervient après l'adoption d'une loi très controversée sur la sécurité qui accroît encore plus l'emprise de Pékin sur l'ancien territoire britannique. D'ailleurs, l'un des principaux opposants au régime chinois, Nathan Lowe, a quitté le territoire. Joshua Wong, un autre opposant connu, a expliqué pourquoi à Florence Dechangy pour RFI.
Je pense que la décision que Nathan a prise a pour but de soutenir la liberté à Hong Kong, comme il l'a indiqué dans sa déclaration. Avec la nouvelle loi de sécurité nationale, ceux qui ont lancé des appels à l'étranger pour alerter sur la situation des libertés à Hong Kong peuvent être poursuivis pour collusion avec des forces étrangères, extradés en Chine et condamnés à des peines de prison à perpétuité. Nathan a pris une décision difficile pour continuer de faire entendre notre voix dans le monde. Hong Kong est irremplaçable pour moi comme pour les millions de Hongkongais qui chérissent leur liberté. Nous nous sommes battus de toutes nos forces au cours des 12 derniers mois pour tenter de sauvegarder l'autonomie et les libertés menacées. Et nous avons l'intention de continuer notre combat et nous ne renoncerons jamais.
Et direction maintenant la Turquie, où s'est ouvert hier un procès très attendu, celui des assassins présumés du journaliste Jamal Khashoggi, qui avait été tué en octobre 2018 à l'intérieur même de l'ambassade de l'Arabie Saoudite à Ankara. Le procès se déroule en l'absence des 20 meurtriers présumés. Écoutez le récit d'Anne Handlauer, correspondante en Turquie pour Radio France Internationale.
C'est avec le récit de Hatice Cengiz, fiancée de Jamal Khashoggi et unique plaignante, que s'est ouvert le procès des meurtriers présumés du journaliste saoudien. La jeune femme est la dernière personne à avoir vu Jamal Khashoggi vivant avant son entrée dans le consulat d'Arabie Saoudite le 2 octobre 2018. À la sortie de l'audience, elle paraissait à la fois émue et confiante.
Ce qui s'est passé reste pour moi une épreuve à la fois morale et psychologique, mais j'ai confiance en la justice turque. Notre lutte pour la justice se poursuivra non seulement en Turquie, mais aussi partout dans le monde.
Cette première audience aura permis au tribunal d'entendre une partie des 54 témoins de cette affaire. Le banc des accusés, lui, est resté vide. L'Arabie Saoudite, où un procès à huis clos s'est conclu en décembre, a refusé d'extrader ses 20 ressortissants accusés par la Turquie d'avoir planifié ou commis le meurtre. Agnès Kalama, rapporteure des Nations Unies sur les exécutions extrajudiciaires, assistait à l'audience.
Le procès saoudien n'était qu'une parodie de justice. Ici, nous avons un espace où les victimes sont entendues, où les témoins parlent sous serment. C'est important pour la vérité car d'autres informations vont émerger. Oui, le procès en Turquie a de nombreuses limites, mais c'est ce que nous pouvons avoir de mieux pour l'instant.
La prochaine audience du procès est fixée au 24 novembre. À Nandler, Istanbul, RFI.
Et un mot maintenant sur le coronavirus, dont le nombre de malades à travers le monde vient de franchir la barre des 11 millions selon des calculs effectués par l'agence Reuters. Le nombre de morts, lui, s'élève désormais à plus de 500 000, soit autant que le nombre de décès causés par la grippe chaque année. Et la situation reste particulièrement critique aux États-Unis où, au cours de la seule journée de jeudi, on a recensé plus de 55 000 nouveaux cas. Le coronavirus en Australie, on tente tant bien que mal de le contenir à Melbourne où des dizaines de quartiers sont de nouveau placés en confinement. Et cette vie recluse, elle n'est pas facile à vivre pour les membres de la communauté arabophone qui doivent renoncer à fêter des anniversaires ou encore à sortir pour d'autres raisons que pour faire des courses ou aller chez le médecin. C'est par exemple le cas de l'Australien d'origine libanaise Rachid Gueya qui expliquait à nos collègues de SBS Arabic 24 que le coronavirus a complètement gâché son 25e anniversaire.
You feel yourself isolated. We felt how the prisoners feel. We felt the situation in places like our Arab countries, where there is wars and things like this, isolated from the world.
Et en Nouvelle-Galles du Sud, ces jours d'élection dans la circonscription d'Eden Monaro. Quatre candidats sont en lice pour ce siège de député, mais d'après les sondages, l'élection va surtout se jouer entre Fiona Cotevoyce du Parti libéral et la travailliste Christy McBain. Cette élection partielle, c'est surtout le premier vote depuis le début de la pandémie et parmi les observateurs, beaucoup estiment qu'elle va permettre de savoir si les électeurs estiment que le Premier ministre Scott Morrison gère bien ou pas la crise du Covid-19. Le leader des Verts, pour sa part, Adam Bandt, espère lui que c'est la question du changement climatique qui sera au cœur de cette élection.
People in Eden Monaro have got a day now to send a very very strong message to Scott Morrison about the importance of climate, acting on jobs. The voters of Eden Monaro are some of the most powerful voters in the country, and they can send a message to the government about acting on the climate crisis and acting on jobs.
Et une petite avancée pour les communautés aborigènes qui, pour la première fois, ont été invitées à participer aux discussions concernant la réforme des objectifs du programme Closing the Gap. Closing the Gap, vous savez, c'est ce programme du gouvernement qui vise à réduire les inégalités entre les aborigènes et le reste de la population. Et une première rencontre a donc eu lieu hier, vendredi, et il était notamment décidé d'augmenter le nombre d'objectifs à atteindre dans le cadre de ce programme, et il passe donc de 7 à 16. Et parmi ces nouveaux objectifs, il est question notamment d'éducation, d'emploi, de sécurité, de logement, de santé, mais aussi eh bien, de la question du nombre anormalement élevé d'aborigènes incarcérés. Pour précision, 30% de la population carcérale en Australie est aborigène, alors que les aborigènes ne représentent que 3% de la population totale. Sophie Trévitte de l'organisation aborigène Change the Record espère que la part des aborigènes en prison sera réduite significativement à l'avenir.
Laws like defaulting on fines or public drunkenness, which see people sent to prison who should never have been there at all. These laws could all be changed overnight and would make a massive difference to the disparity between Aboriginal and non-Aboriginal people.
Et toujours sur la question des inégalités frappant les aborigènes, de nouvelles manifestations dans le cadre du mouvement Black Lives Matter sont prévues aujourd'hui dans plusieurs villes d'Australie, comme par exemple à Brisbane, à Perth, à Darwin ou encore à Adélaïde. Pour l'instant, seule celle d'Adélaïde a été officiellement autorisée, mais les manifestants devront porter des masques et respecter les mesures de distanciation physique. Et pour finir ce journal, un mot sur la météo du jour. Il y a du soleil et 23 degrés à Perth, 15 degrés à Adélaïde où il pourrait y avoir des averses, temps humide également à Melbourne et seulement 13 petits degrés. Il a plu ce matin, mais le temps s'est désormais éclairci à Sydney où il fait 16 degrés, 21 degrés et du soleil à Brisbane, soleil aussi et 27 degrés à Cairns et jusqu'à 33 degrés aujourd'hui à Darwin.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.